Des prix de cette attraction, répulsion pour le vide, de cette sensation que vos jambes vous lâchent lorsque vous marchez en haut d'un pont ou d'une falaise. En d'autres termes, souffrez-vous de vertige? Eh bien, notre invité de ce matin vous donnerait presque l'envie de devenir acrophobe tant il a fait de son vertige un magnifique objet littéraire. Il publie Craintif des falaises aux éditions L'Arbre Vengeur, un récit de ses expériences et mésaventures liées au vertige, émaillé de références à Montaigne, à Flaubert ou au cinéma d'Alfred Hitchcock. C'est drôle, savoureux et brillant. Bonjour Éric Cheviard.
Bonjour, bonjour Charlotte.
Les auditeurs fidèles de Week-end Première vous connaissent déjà bien puisque vous nous avez accompagnés pendant la pandémie avec les billets de votre blog L'Autofictif que j'ai lu à cette antenne, mais vous n'êtes pas qu'un diariste, bien sûr, vous êtes l'auteur d'une trentaine de romans parus notamment aux éditions De Minuit. Et dans Craintif des falaises, illustré par Kilofer, vous racontez avec humour les situations incongrues que le vertige dont vous souffrez a pu provoquer, notamment en compagnie de vos deux filles qui, elles, n'ont pas du tout peur du vide et qui manifestent une sorte de compassion amusée pour leur papa. D'ailleurs, c'est en quelque sorte votre fille Agathe qui est à l'origine de ce livre, ou du moins de son titre. Racontez-nous.
Effectivement, normalement, un père est supposé être un homme courageux qui brave les difficultés et les épreuves et qui ouvre la voie pour ses enfants. Mais ce jour-là, alors que ma fille n'avait que 7 ans et que nous nous promenions sur une corniche à Marseille, quand je dis une corniche, c'est pour donner à croire qu'un précipice béant s'ouvrait à nos côtés. C'était une large corniche sur laquelle les enfants couraient volontiers. Et moi, soudain, j'ai été saisi par une sorte de panique immobile. Là, je sentis pour la première fois que vraiment j'étais figé dans une peur incontrôlable. Et ma fille a dit « Papa, tu es un craintif des falaises ». Elle avait 7 ans, quelque chose comme ça. C'était une très juste définition de ce que j'étais devenu.
Le mot scientifique pour désigner ce vertige, c'est acrophobie, hein, je le disais. Mais vous, vous préférez vertige. Pourquoi ?
Le vertige, c'est plus noble, hein, parce que ça croise la métaphysique, les angoisses de la vie et de la mort. L'acrophobie, on a l'impression juste que c'est un personnage un peu lâche qui tremble sur sa montagne. Je crois que non, mais en fait, très sérieusement, j'ai cherché à comprendre ce que l'acrophobie désignait. Est-ce que ça n'est que une sensation physique nerveuse de peur devant le vide, ou est-ce qu'effectivement c'est aussi une sorte de conscience du néant? Voilà, donc le livre, sous une forme humoristique, interroge quand même ces notions-là. Les phobies sont sans doute significatives de quelque chose. Depuis que j'ai écrit ce livre, tout le monde me parle de ses phobies personnelles, et j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a longtemps vécu avec une faute des limaces extrêmement handicapante.
Une phobie des limaces?
Des limaces, oui, des limaces. Ça lui interdisait toute promenade en forêt, etc. Et il jardinait volontiers, il n'osait plus, enfin. Et ce qui prouve que la phobie ne désigne pas nécessairement un danger objectif, comme c'est le cas pour l'acrophobie. Mais il y a des phobies qui s'attachent à des objets qui semblent insignifiants et inoffensifs. Qu'est-ce que ça trahit? Qu'est-ce que ça révèle de soi?
Alors, dans Craintif des falaises, l'humour repose à la fois sur certaines situations un peu humiliantes que vous nous racontez, mais aussi sur la verve parfois excessive avec laquelle vous exprimez votre détestation du vide et de la hauteur. Je vais en lire un court passage pour qu'on se rende compte. Majestueuse montagne, dites-vous, comme si elle ne nous dominait pas suffisamment, faudrait-il donc encore se prosterner devant elle ? Non, la montagne est comme la tempête, comme l'orage. Après 5 minutes de ce fascinant spectacle, j'apprécierais que tout retombe et s'apaise. La montagne nous trompe. Plus tu montes, et plus c'est profond. Quant à la pratique de l'alpinisme, justement, pourquoi ne pas s'inspirer d'aménagements aussi satisfaisants que le baby-foot ou le mini-golf pour en éprouver les joies? Et donc, ce fut torture, très tôt, le sport, à l'école, quand du moins nous en arrivions à la gymnastique, aux exercices sur une poutre et supplice suprême à l'épreuve de la corde lisse. Songez tout de même qu'il s'agit de s'éloigner de la terre ferme en faisant la brasse verticalement sur un fil, telle une grenouille très déboussolée qui irait chercher dans le ciel la mare d'où vient la pluie. Pour ma part, je cessais tout mouvement après 2 mètres. C'est la hauteur parfaite pour fumer un jambon. Je m'attendais à ce qu'on allume un feu au-dessous. Comme ça ne venait pas, je me laissais choir sous les huées. Déjà, ma dignité était ailleurs, plus près des jolies fleurs des champs, au ras des pâquerettes. Personnellement, je ne suis pas descendue du singe pour faire un si piètre macaque. Alors voilà pour cet extrait de Craintif des falaises. Éric Chevillard, est-ce qu'on a le vertige en écrivant un livre sur le vertige ?
Absolument, on a le vertige en évoquant même la notion de vertige. Là, nous parlons tranquillement, mais je suis agrippé de tous mes membres à ma chaise. Parce que le vertige est quelque chose que, par exemple, le vertige, je l'éprouve au cinéma en voyant des scènes. Le vertige, j'ai beau être assis dans un fauteuil confortable, mes jambes se dérobent. Alors, en écrivant, moi je suis de ces écrivains qui ont toujours pensé que leur défaillance, leurs angoisses étaient fécondes. C'est sans doute la seule activité, enfin l'écriture ou l'art en général, où finalement on peut faire fond sur ce qui normalement anéantit son homme. Ça devient une sorte d'énergie renversée. Et c'est une sorte de revanche. Donc à la fois, je vais au-devant de ma peur, bravement, entre guillemets, mais je l'exploite en fait, en quelque sorte. J'espère avoir ce courage dans la maladie, dans l'extrême fatigue du grand âge, et on ne sait pas. Et là, une phobie comme celle-ci qui reste malgré tout maîtrisable, puisqu'il me suffit de rester, par exemple, sur le KPI. Pour ne pas le couvrir. Là, il est confronté à la difficulté, confronté à l'empêchement, comme disait Michaud, c'est un mot que j'aime bien. Finalement, l'écrivain, c'est aussi une aubaine pour lui, ça lui donne un bon sujet à traiter.
Du coup, si on vous propose une psychothérapie pour soigner votre vertige, je vous dirais non, c'est un trop bon sujet pour l'écriture.
Voilà, et je n'accepte d'ailleurs aucune psychothérapie d'aucune sorte, parce que. Si je me débarrassais de mes complexes, de toutes mes angoisses, j'ai l'impression que je deviendrais tout de suite très ennuyeux et comme écrivain, je deviendrais absolument nul, annulé même. Je ne sais pas s'il faut se soigner. Je sais que quelquefois, les handicaps auxquels nous sommes confrontés sont tels que le soin est nécessaire, qu'il est salvateur et indispensable. Alors, si on se soigne, on devient plat, oui, sans doute. Alors, pour un acrophobe, c'est peut-être la solution. On perd ses arêtes, son aspérité, on devient sans doute un peu ennuyeux.
Il y a deux auteurs qui vous accompagnent durant tout le livre, enfin il n'y a pas qu'eux, mais en tout cas on les retrouve beaucoup, Flaubert et Maupassant. Vous nous racontez notamment que Flaubert, alors qu'il écrivait Bouvard et Pécuchet, avait envoyé Maupassant en repérage sur la côte d'Étretat pour qu'il lui trouve une falaise où il pourrait planter le décor d'un nouvel épisode de son roman. Mais au-delà de ça, on sent que la relation entre Flaubert et Maupassant vous intéresse beaucoup, Éric Chevillard, notamment parce qu'elle aussi, elle est faite d'un peu d'humiliation. Comment vous la qualifieriez, cette relation ?
Alors, d'humiliation, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que, d'abord, Maupassant lui-même se met en situation de dévouement absolu à Flaubert, qui était son parrain, qui était une génération, un ami de sa mère, et qu'il admirait beaucoup. Flaubert en profite un peu. Il faut dire que Maupassant vivait à Étretat, et que dans Bouvard et Pécuchet, effectivement, il y a une scène où ces deux bons hommes, comme Flaubert les appelle, vont chercher des fossiles sur la côte normande, et sont sujets justement au vertige. Flaubert demande à Maupassant qui vivait à Étretat de lui faire un petit descriptif de la côte pour trouver la valeuse, comme on appelle ces endroits la plus qualifiée pour cette scène. Et Maupassant lui fait un croquis, mais la main levée d'abord, tout en décrivant. Donc les lettres sont assez belles parce qu'elles sont accompagnées de dessins très très précis de la côte normande, mais il fait ça presque mètre après mètre. Et ça ne convient jamais à Flaubert parce que Étretat. C'est un site magnifique, mais trop magnifique, justement, parce que ça va voler la vedette à la situation romanesque qu'il veut décrire. Donc, Maupassant y retourne, et il y a un échange de lettres assez amusant entre les deux, en effet. J'ai eu le plaisir, d'ailleurs, lorsque je séjournais à Étretat pour écrire ce livre, de faire une lecture des premières pages dans la maison de Maupassant, qui s'appelle La Guillette. C'était très étonnant, Maupassant, qui a eu souvent des pensées suicidaires ou morbides, et qui, curieusement, n'a jamais songé à se jeter du haut d'une falaise alors qu'il habitait à quelques mètres. Il a fait des tentatives de suicide avec son coupe-papier, par exemple, mais sauter dans le vide, je ne sais pas, alors que pourtant Étretat se trouve être un site très apprécié par les et suicidaire.
Oui, vous racontez notamment qu'il y a une sorte de tourisme du suicide qui est développé dans cette région.
Je ne sais pas si l'Office du tourisme d'Étretat accepterait cette définition, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs suicides par mois. C'est un vrai problème pour la municipalité. D'ailleurs, on m'a expliqué que les hôteliers avaient la consigne d'être extrêmement vigilants quand ils voyaient arriver le soir un voyageur sans bagage avec l'air un peu lugubre. Presque parfois même d'alerter éventuellement la police pour qu'on surveille discrètement ces individus. La question du suicide, enfin, est pour moi, est traitée aussi dans ce livre du suicide par ceux qui choisissent cette solution de se jeter dans le vide, parce que j'ai l'impression qu'il faut un tel courage pour sauter dans le vide que le courage de vivre à côté est une plaisanterie. Donc ces gens qui sont acculés, si on peut dire, à ce choix radical et funeste, j'ai l'impression que cette force qu'il leur faut pour mourir leur serait tout à fait suffisante pour survivre. Donc je réfléchis aussi sur ces questions, sachant que ce qui est très intéressant avec la falaise en particulier, c'est qu'elle s'arrête net. En fait, le monde s'arrête brutalement. C'est comme si on arrivait vraiment au bout du monde. C'est un apic, c'est à angle droit. Et donc, tant qu'on est encore au bord, à l'extrême bord, on est vivant, on est en pleine forme, mais un pas de plus, et c'est irrévocablement la fin. Un peu comme si on arrivait aussi au bout de la vie, effectivement.
Mais en tout cas, nous, on arrive au bout de cette conversation, mais on est content que vous soyez toujours en vie, Éric Chevire, parce qu'on est... en tout cas, moi, j'ai été absolument ravie de lire ce Craintif des falaises, avec aussi les illustrations de Kilofer, qui sont très, très belles. Vous étiez au téléphone avec nous, Éric Chevire, depuis Dijon. Vous vivez à quel étage ?
Eh bien, je vis dans une maison qui comprend 3 étages, mais je m'aventure assez rarement au-delà du deuxième.
Merci en tout cas.